Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
On n'a pas d'amour pour les poules. Vous n'irez pas aimer 100 000 poules.
On est noyé dans un contexte ici qui n'est pas un contexte neutre. On n'est pas dans le sud-ouest de la France ou dans les Alpes de Haute-Provence. On est ici en Bretagne, terre de production intensive. La culture, elle est là, elle est ancrée, elle est solide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de résistance au changement, qui pourtant est devenu nécessaire.
Manifestations, rassemblements, routes bloquées, défilés de tracteurs, déversements de fumier, blocage de rennes par plus de 500 engins. La crise agricole que traverse la Bretagne est une des plus préoccupantes qu'ait connue la région. Les prix sont bas, le taux d'endettement des agriculteurs de plus en plus élevé, les problèmes sanitaires nombreux. Alors les revenus baissent de manière vertigineuse, les exploitations moyennes ferment, tandis que s'ouvrent des fermes-usines. Selon certains syndicats, cités par le journal Le Monde, 30 à 40% des exploitations bretonnes pourraient ne pas survivre à la crise à moyen terme. D'autres chiffres sont moins catastrophiques, mais le malaise est bien installé. Un plan en 4 volets, mesures d'urgence, actions au plan européen et au plan national, normes et cotisations sociales, a été proposé par le Premier ministre mercredi. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, on peut supposer que la colère ne va pas s'arrêter net comme ça. Jeudi dans Les Pieds sur Terre, le journal breton d'Inès Leroux essaiera de nous faire comprendre ce qui se passe dans ses exploitations, dans la première région agricole de France. Elle essaiera aussi de raconter quelques-unes de ses vies oubliées de l'économie française. Pour l'heure, c'est le 3e épisode du journal breton. Cette chronique, au fil des jours, tenue par notre reporter Inès Leroux en immersion. Une brindille partie s'installer dans les Côtes d'Armor, dans un hameau de quelques habitants, depuis le mois d'octobre, au cœur de son terrain, comme disent les scientifiques, en pleine crise. Aujourd'hui, elle nous fait rencontrer deux de ses voisins ou connaissances récentes. Thierry et Marilia, qui nous baladent du centre Bretagne au milieu de la taïga, sur les bords de la rivière Bikine, dans la région du Primorié, en extrême orient russe, juste en face du Japon. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, hommage à la vie sauvage.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait maintenant 3 mois que je vis à Coatmel. C'est un petit hameau en centre-Bretagne dont la principale activité est l'élevage de poules et de vaches. Je suis venue m'installer ici dans les Côtes d'Armor pour enquêter sur l'agroalimentaire, sur les élevages intensifs, leurs effets sur l'environnement, sur les animaux et sur les hommes. Mais ici, près de Guingamp, je découvre en fait une réalité très contrastée, un monde en plein bouleversement, et même quelques villages pour lesquels l'écologie est la priorité. C'est le 3e épisode de mon journal. Début février 2016, le soir en prenant ma voiture, je découvre des routes saccagées, sur les ronds-points des décombres fumants, un air de pays en guerre. Je décide alors d'aller frapper à la porte de Thierry Thomas. C'est un agriculteur que j'avais rencontré lors de mon enquête sur la coopérative nutréatrice Calia, qui a utilisé des insecticides interdits qui ont possiblement contaminé toute la chaîne alimentaire. Thierry Thomas avait été le seul agriculteur à accepter de me parler.
Vous avez le droit à l'entrée des artistes. D'habitude, on rentre par derrière.
Ah bon ?
Il est éleveur de porc intensif et adhérent à Eaux et Rivières de Bretagne.
Je replie mon parapluie.
Un profil assez rare pour me donner envie d'en savoir plus sur lui et sur ce qu'il pense de la crise.
Je suis Thierry Thomas, je suis producteur de porc à Plouisy, dans les Côtes d'Armor. On a ce qui est devenu une petite ferme, c'est-à-dire qu'on a 84 truies, c'est 2000 porcs, un peu plus de 2000 porcs produits par an. La moyenne régionale est plutôt à 200 truies, c'est-à-dire plus du double.
C'est-à-dire 4000 porcs produits par an.
Au minimum, oui. Je ne vais pas vous dire qu'on gagne bien notre vie, puisque l'année dernière, nous avons fait un revenu négatif. On a fait un revenu de moins 4 000 euros. sans parler de la rémunération, hein, parce que avec moins 4000 euros de résultats, ça veut dire qu'il a manqué 4000 euros pour boucler le fonctionnement de l'exploitation et payer les charges sociales quand même. Mais parce qu'on a une carrière derrière nous, eh ben, quand on a mis un peu de sous de côté, ben, on les ressort quand ça va mal. C'est pas la première crise, celle-ci c'est pas la plus violente, on en a déjà connu des plus violentes que ça. Alors je n'ai pas regardé le départ, mais ça fait, disons, un peu plus d'une semaine maintenant que quotidiennement, les éleveurs qui sont légitimement en colère contre cette absence de revenus malgré le travail quotidien, cette astreinte quotidienne, ils sont sur les ronds-points à déverser à la fois un certain nombre de déchets qui traînent dans l'exploitation et aussi leur colère. Je suis d'accord sur un constat, je suis absolument pas d'accord sur les solutions qui sont préconisées ou qui sont demandées par les éleveurs. Regardez les demandes de la FNSEA aujourd'hui. Les demandes de la FNSEA, c'est envoyer les sous. La baisse de consommation de la viande, elle est entamée et elle sera durable. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Oui, les gens vont demain consommer moins de viande. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de leur en mettre contre leur gré, de la camelote à bas prix, ou est-ce qu'on profite de l'occasion justement pour améliorer la qualité de nos productions? Je pense en particulier à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, parce que je crois qu'on a besoin de faire une révolution dans la tête des agriculteurs. On leur a demandé pendant des années et des années de produire, et on nous a demandé, et on l'a fait, de produire beaucoup et à pas cher. Ça ne s'est pas fait sans dégâts. Les dégâts, on les connaît. Les eaux se sont chargées en nitrate. La mer a commencé à vomir le résultat de ça, c'est-à-dire des algues vertes. Il est temps de passer à autre chose, parce qu'on n'est pas la seule génération. Et ça, on n'a pas encore complètement admis dans le milieu agricole. Ça va venir. Les générations d'après sont en train de comprendre ça, mais nous, on est encore des vieux machins. C'est lié à notre histoire. Nous, on est passé par les lycées agricoles. Moi, vous savez, comme beaucoup d'agriculteurs, pendant des années et des années, j'ai été fasciné par le progrès. Moi, je comprends que mes collègues autour de chez moi, en ce moment, soient fascinés par les robots de traite. C'est fascinant, ce matériel-là qui arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire par le passé et qu'on arrive à automatiser. Sauf qu'on sait à quoi ça mène. Ça mène à l'industrialisation toujours plus importante, à la concentration des exploitations. C'est à ça que ça mène. Et je plains, finalement, mes voisins producteurs de lait qui sont en train de prendre ce progrès-là à bras-le-corps, parce que demain, le prix du lait, il ne vaudra rien du tout. Rien du tout, parce que justement, ce qui peut valoriser ces productions animales, c'est le travail qu'il y a avant, mais le travail humain, pas le travail de la machine. Moi, j'ai deux enfants. Tous les deux sont installés sur des fermes. Mon fils est installé dans le Tarn. Il n'a pas 84 truies, il n'en a pas 200, il n'en a pas 1000, il en a 15. Élevés en plein air, toute l'année. Ils transforment tout directement, ils vendent tout directement aux consommateurs, dans des AMAP, autour de chez eux, mais aussi en région parisienne. Ma fille et son conjoint sont installés près de chez nous. Ils ont 65 brebis. Pas 1500, pas 2000. Ils font du fromage, ils le vendent directement sur des marchés à la ferme, ils le vendent sur des marchés de plein vent. Ils vivent bien. Mon fils m'a dit hier... Je n'ai aucune raison d'aller manifester sur le rond-point dans ma commune. Je vais bien, je gagne de l'argent, tout va bien. C'est là que l'emploi, le gisement d'emploi en Bretagne, il est là, dans ces petites fermes-là, pas dans les grosses. Les grosses, elles ne font que détruire de l'emploi. Les petites fermes créent de l'emploi. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, tous les agriculteurs et toutes les formes d'agriculture ne sont pas dans la panade aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Et vous voyez, je pourrais être très déçu de voir qu'un de mes enfants ne reprend pas la ferme, l'activité que nous avons fait, ma femme et moi. Mais je leur donne raison. Ils ont raison. C'est autre chose qu'il faut faire. Et je comprends que mes collègues qui se sont embranchés dans cette voie-là soient très très amers aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la qualité de vie, ils n'ont pas le revenu, ils n'ont pas grand-chose, en fait, finalement. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on se réveille, qu'on ait assez confiance en nous pour arrêter de croire aux sirènes de ceux qui nous disent il faut aller dans telle et telle direction. Il faut savoir ce qu'on veut aussi dans ce métier-là, comme ailleurs.
Nous reviendrons dans les prochains épisodes du Journal Breton sur la crise des agriculteurs et même sur les algues vertes. Mais avant cela, je voulais vous faire entendre l'histoire de Marilia. Je l'ai rencontrée dans un café près de chez moi. Elle est partie vivre en Sibérie, où elle a connu une vie extrême et un drame amoureux.
Ça fait 4,40, 4,46, 46, 47, 50.
Moi, j'ai 31 ans. Je suis une exploratrice. J'ai besoin de parcourir.
Mais tout a commencé dans une forêt bretonne, près de la ferme de ses parents, où elle a vécu dans une yourte.
Moi, j'ai été inspirée par les Indiens d'Amérique dans mon enfance. Il y a une chose que mes parents m'avaient promis, je me rappelle, qu'un jour j'aurais un tipi. Moi, je rêvais de ça, d'avoir ma chambre dans un tipi, et ils ne l'ont pas fait. Donc bon, je l'ai fait toute seule, quoi. Et donc voilà, j'ai vécu comme ça presque un an.
Toute seule ?
Oui, ouais. C'était le matin, j'allais faire mes ablutions dans le ruisseau. Enfin, je faisais du troc, je filais des coups de main, on me filait des légumes. Tu sais, t'as pas besoin de grand-chose hein, pour vivre. Hein. En fait, ça a pas duré très longtemps, parce qu'au printemps, on est parti en vélo avec un voisin de Trémargat. Et donc, lui, il avait un projet de faire un tour du monde des forêts primaires en vélo. Et moi, quand j'ai entendu ça, je fais, mais ça, c'est pour moi. On est parti au printemps. Donc là, c'était en 2009. On a passé par Lituanie, Lettonie, et on arrive en Russie. Et on a continué jusque la République des Komis, qui se trouve au nord-ouest de l'Oural. Après ça, on a passé 2 mois dans l'Altaï russe. C'est une région de montagne qui se trouve à cheval entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. C'est une région magnifique, des montagnes comme dans les contes de fées. Et après ça, on a continué à vélo, Irkoutsk, Ulan-Ude, la Mongolie, la Chine. Et le dernier point, les dernières forêts qu'on voulait visiter dans ce continent, c'était dans la région... dans une région de l'extrême-orient russe qui s'appelle le Primorié, où il y a des forêts vierges. Et on est arrivé dans ce village, Krasnyar, donc un village perdu sur la rivière Bikin, où il n'y a plus de route après. On a passé 3 semaines, moi, il y a quelque chose qui m'a plu. Et puis j'avais pas envie de repartir de la Russie pour me retrouver au Canada, dans la civilisation, quelque chose de plus civilisé, de plus moins sauvage. Et donc, moi, ben, je suis restée. Et Christophe, lui, il a continué.
Qu'est-ce qui t'a plu ?
Le fait que les gens là-bas vivent encore réellement de la forêt. Qu'ils ont un mode de vie chasseur, pêcheur. Puis ben, j'ai rencontré Kostia, qui est devenu mon mari. Et avec qui, maintenant, j'ai eu 2 enfants. Il faisait partie de ce village, il faisait partie de cette forêt, il faisait partie de ce monde, quoi. Je pense qu'on a ressenti tous les deux que, ouais, qu'on s'était trouvés, quoi. Il était chasseur, udège, ou dégué, en fait, ça veut dire les gens des bois, les gens de la forêt. Donc c'est vraiment des gens qui, à l'époque du grand-père de Kostia, vivaient en petite famille, de manière aussi nomade, en fait, sur la rivière. Qui chassait, qui pêchait, qui mangeait que ça, ils faisaient pas de jardin.
Vous parliez quelle langue ensemble ?
Russe. Je parlais pas très bien à l'époque, donc des fois on se comprenait pas trop, mais j'ai appris vite. Et puis avec Ossia, très vite, on est parti en forêt, parce que mon désir, c'était ça, c'était de vivre, vraiment vivre, c'est-à-dire toute l'année, en forêt. Et lui, son terrain de chasse, il était situé à 150 km du village, par la rivière, en barque ou bien en motoneige quand c'est l'hiver. Donc c'était, voilà, je suis allée vers cette aventure-là.
France Culture, les pieds sur terre.
Il faut s'imaginer que tout est vivant, tout est dynamique, que ce soit la rivière qui change tout le temps, des berges qui apparaissent quand l'eau descend, et après avec la glace, l'univers est complètement changé, quand la glace commence à se former sur la rivière, que tout devient blanc, les couleurs qui changent, l'automne c'est magnifique, c'est une foule de couleurs qui s'entremêlent, une forêt en même temps qui est luxuriante. Enfin, les plus beaux endroits que j'ai appréciés, c'était là où on avait notre baraque et où on pouvait explorer les petits bras de rivière qui vont le long des montagnes. Et puis près de notre baraque, il y avait déjà une petite clairière parce que ça avait déjà été cultivé, mais c'était tout petit. Et donc moi, je me suis attelée à agrandir cette clairière. Donc il y avait des moments où où j'ai complètement déterré des souches pour qu'il y ait la place de faire un jardin. La baraque qu'il y a sur place, qui est toujours là, elle faisait 4 mètres sur 4. Quoi. Des toutes petites fenêtres, donc assez sombres, un poêle, voilà, une banquette, une table, puis tu vis là-dedans, quoi. Mais encore, c'était mieux que celle du grand-père qui restait toujours aussi sur place où il n'y a pas une tuile qui a bougé, qui faisait peut-être 2,5 mètres sur 2, quoi. Une boîte d'allumettes. C'est des cabanes qui sont faites pour la saison d'hiver. Donc généralement, en fait, les femmes, elles restent vivre au village toute l'année avec les enfants. Et les hommes, eux, ils partent pour la saison, ils partent 2-3 mois. Nous, on était un peu une des seules familles, en fait, à faire le voyage toujours ensemble, avec des enfants en forêt. Et je crois que pour ça, les locaux m'ont pas mal respecté et compris, peut-être. Parce qu'ils ont vu que le seul amour que j'avais, c'était la vie de la forêt. Et que pour eux, ça résonne. C'est leur vie, quoi. Quand on était en forêt, il y avait, par exemple, tout le mois de novembre, décembre, je ne voyais personne. C'est-à-dire que la rivière, elle commence à geler, donc tu ne peux plus utiliser la barque et tu ne peux pas encore utiliser le motoneige. Donc tu vas nulle part. Et donc, ouais, tous les bruits, quand tu entends un bruit de moteur, tu te dis ah, est-ce qu'il va passer par là? Est-ce qu'il va passer par là? Quand tu vois débarquer quelqu'un, c'est la joie, quoi. N'importe qui. Quand les motoneiges, tu peux utiliser enfin les motoneiges, bon. On allait chez, à 7 km de là, t'avais des voisins quoi, avec qui on s'entendait un peu. On allait pour le jour de l'an. Quoi. 7 janvier 2014. Aujourd'hui, c'est le Noël des Russes. Et aujourd'hui, d'après le standard traditionnel, il est censé faire moros, autrement dit très froid, gelé, du moins 35 minimum. Bientôt, des nouvelles devraient arriver. L'oncle Yura. D'une manière ou d'une autre, on l'attend avec le motoneige, l'essence. L'essence, ça veut dire la lumière, ça veut dire l'ordinateur, la musique, la lumière, la lessive, etc. Chaussures de marche potables et peut-être quelques préciosités, des pommes, du fromage, donnez-moi, du calcium s'il vous plaît, SOS. Mais s'il arrive sans rien sous les fesses, ce qui est fort possible, alors là, ça mettra un peu plus de temps. Sera un jour où nous ferons aussi partie de l'humanité motorisée et alors on pourra, par un beau jour comme aujourd'hui, faire 40 km les cheveux au vent sur la glace de la Bikine. En attendant, Kostia est parti à pied, 7 km plus bas, dans l'espoir de quelques cerfs, Izioubl. Et moi, j'écris des lignes pour oublier que j'ai mal aux dents. Savelli, il est né fin 2011. Donc là, Kostia a construit une baraque de 5 mètres sur 5. Et avec des arbres qu'il a coupés sur place, qu'il a écorcés sur place. Et c'était bien, il y avait des grandes fenêtres. C'était le rêve, parce que t'es tous les quatre. Kostia, il était dans son rôle complètement. Il prépare le bois, il fait tout pour qu'il fasse chaud, pour qu'il fasse bon, pour qu'il y ait à manger, pour que on allait pêcher ensemble. Il revenait le soir, toujours il avait la banane. Après, il racontait dans la forêt. Là, j'ai vu des sangliers qui sont passés. Après, il y a le tigre qui est venu, qui les a fait s'échapper. Donc moi, j'ai pas pu les avoir. Enfin, ou bien les traces d'un ours qui cherche son endroit. Alors les ours, quand ils cherchent leur endroit pour hiberner, eh ben ils font des boucles, ils font des allers-retours pour perdre les éventuels, les gens qui peuvent déranger. Quoi. Et c'était vraiment intéressant d'apprendre de lui toutes les manières qu'il y a de s'adapter dans ce monde-là au monde de la forêt. Quoi. que tu veux, Milan?
Tu veux mettre une couche?
Bon, t'as pas besoin de couche. Tu peux aller sur le pot si tu veux.
Oh, ok.
Une couche, allez.
Comment cette histoire s'est terminée? Pourquoi Maria est-elle revenue en Bretagne? Je suis retournée la voir, dans la ferme de ses parents, perdue au milieu de grands chênes, en centre-Bretagne.
Donc ça, c'est un portrait de l'extérieur, et du coup, t'as la forêt qui se reflète dans la vitre, et son visage, quoi. Les jeux de lumière, t'as vu, on dirait qu'il a des moustaches de tigre, qu'il a des rayures de tigre.
Il a vraiment un physique de mongol.
Et il a sur la tête c'est un chapeau en peau de barsouk. C'est quoi déjà? Blaireau. Il a une tunique blanche et un pantalon blanc, parce que c'est le camouflage, quoi. Souvent, il met un chapeau aussi un peu blanc, et ben, une carabine, et puis c'est tout. Alors, il y a des chaussures aussi particulières, des chaussures de chasse indigènes qu'on appelle alochi. En fait, c'est presque une seule pièce de cuir, pour pas que la neige du tout rentre dedans, avec des grands lacets que tu lasses le pantalon, en fait. Quand il y avait beaucoup de neige, il fallait qu'ils mettent les skis, avec des pots de pâte de serre cousues en dessous pour pas que ça glisse, en fait, dans les montées. Faut marcher lentement, faut marcher doucement, faut pas faire de bruit. 2-3 fois, je suis allée avec lui pour chercher du gibier qu'il avait déjà tué, qui était resté sur place parce qu'il peut pas tout ramener. Il chassait du cerf, du chevreuil et du sanglier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mylène? Oh, je crois que tu l'as cassé. C'est beau, en fait, cette histoire, parce que moi, j'ai été celle qui a fait qu'il est retourné en forêt, enfin, pour des vraies saisons, chose qu'il ne faisait plus depuis pas mal de temps. Et lui, son envie, c'était d'avoir une famille avec des enfants. Moi, j'étais une étrangère, donc ça voulait dire beaucoup, je pense, de changement pour lui. Il n'a pas pu porter tout ça sur ses épaules, en fait. Il avait un esprit d'adolescent libre. Quand on revenait au village, il picolait pas mal. Enfin, tu peux pas vivre complètement en forêt, en autarcie. T'as besoin d'un groupe électrogène, t'as besoin d'essence, t'as besoin de matériel. Donc, à chaque fois, on faisait des allers-retours. Quand on allait au village, c'était pour se ravitailler, c'était pour vendre tout ce qu'on avait, c'était pour faire des papiers, c'était pour les enfants, parce que, voilà, après, il y a eu une autre grossesse, etc., etc. Et c'est vrai que quand on allait au village, pour moi, ça devenait, c'était l'enfer. Parce qu'il y avait l'alcool beaucoup, parce que la vodka, bah, ça détruit, quoi. Et qu'il en est mort. Il y a des gens qui ont une fierté telle qu'ils ne peuvent pas revenir sur leurs erreurs, sur leurs faiblesses, tu vois, sur leurs blessures. Kostia, il a préféré se fracasser parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il a fini par, en fait, se faire tuer. Dans un moment alcoolisé, quoi, par le mari de sa tante. Mais tu fais des trucs de dingue, hein, quand t'es bourré à la vodka, tu fais des trucs de dingue. 2 mois avant, il y a eu la même chose dans la maison d'à côté, quoi. Il a eu 34 ans, et le lendemain, il est décédé. C'est un cauchemar qui se termine pour moi aussi, même si c'est le rêve aussi qui se termine. La vie dans la taïga, pour moi, s'est arrêtée. Bon, il me reste un terrain, en fait, que je ne veux pas lâcher, qui est encore plus loin sur la rivière, mais dans un petit village où il y a quelques familles qui vivent avec des enfants. Et j'ai l'intention donc de déplacer la baraque dans laquelle on vivait, de la démonter et de la déménager sur ce terrain pour qu'on ait au moins un pied-à-terre pour pouvoir, si les enfants veulent y revenir. Savelli, je sais qu'il est très accroché à la vie qu'on avait là-bas, parce que lui, il a vécu aussi ses petits bouts de rêve. Et que, voilà, c'est une partie de son papa, donc j'ai pas envie de décrocher complètement.
Il a quel âge, Savelli?
Savelli, là, il va avoir 4 ans dans quelques jours. Milan, il a 1 an et 5 mois. Il y a des projets possibles à cet endroit-là. Si j'arrive à mettre en place de l'apiculture, par exemple, c'est mon rêve. Des collectes de plantes médicinales, séchage et conditionnement sur place, alors peut-être que oui, cette expérience durera encore quelques années. Alors, tu veux que je lise ?
Ouais.
Allez, c'est parti. 28 février 2015. 10 coups de couteau, la chute. Comment dire ? Comment faire tenir ça dans une histoire quand on peut à peine y croire ? C'est le couperet qui tombe. 10 coups de couteau et le vide. Il venait d'avoir 34 ans. 34 ans et un jour. Un jour pour lui faire croire encore qu'il pouvait bien continuer ainsi à si mal traiter sa vie. Un jour de tromperie de trop, un jour d'oubli de trop. La mort l'a emporté parce qu'il n'avait plus aucune bonne raison pour la repousser. Plus de bluff, plus de cache-misère. Je me souviens t'avoir dit que se lier pourrait s'avérer dangereux. Je n'ai pas vu ta détresse, elle était trop bien cachée sous une rude carapace d'orgueil. J'aimerais tant que tu comprennes ta mort, que tu partes serein et lavé. Que tu puisses te préparer à nous accompagner en esprit, comme un guerrier reposé après la bataille. Ne me juge pas, si je retrouve la joie est là dans mon cœur comme la meilleure arme qui puisse être. Tu m'as introduit dans ton monde, tu as été là quand j'avais besoin de toi pour être. Tu es parti maintenant, quand il ne fallait plus me freiner. Merci. Pardonne-moi aussi de n'avoir pu te guérir. Je t'aime, mon amour. Bisinawa Ayumi. Je t'aime, en Udej.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile. And I'll gamble away my fright. And
aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton d'Inès Lérault. Un reportage réalisé par Éric Lancien avec Alexandra Malka. Merci à Thierry Thomas, à Marilia Petite et à sa famille, à Alain Depays, à Alice Sternberg, à André et à Solange. Vos réactions, vos commentaires, vos suggestions, pour le moment, c'est plutôt sur les réseaux sociaux que vous pouvez nous les adresser, où je vous conseille d'ailleurs de partager notre émission si elle vous a intéressé. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Comment l'oublier ? Clara Lacombe, c'est notre stagiaire. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Restez sur notre chaîne. Il n'y a pas que les Pieds sur Terre. Sur Terre, il y a justement, dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.